Bon, on pouvait s'en douter, des grands projets qui avaient été annoncés avec tambour et trompette sont tombés en mode révision, notamment le groupe MAC qui doit développer le site de Radio-Canada. Puis il y a le fameux projet aussi Royal Mount qui est en pause depuis longtemps.
Royal Mount, Paul, ça te dit quelque chose, ça? On a déjà parlé de ça?
Un peu, oui.
Avec un peu de contestation, oui, Royal Mount qui est en pause. MAC qui annonce que finalement, à Radio-Canada, il va y avoir la moitié de l'espace commercial prévu. Ça amène des premiers signes d'impact, de réflexion suite à la pandémie. Oui, le monde du travail est en train d'évoluer. Oui, on dit que la restauration atteint 65 % de ses revenus d'avant pandémie. Donc, on voit qu'il y a un déplacement des travailleurs pour l'instant où il y a simplement des travailleurs qui ne vont plus au travail. Mais ça amène une chose. Je parlais avec des gens hier, puis on avait la réflexion suivante. Ce qui était déjà en branle avant la pandémie, l'intelligence artificielle, le commerce électronique, le travail à distance, tout ça a été, c'est pas apparu à cause de la pandémie, c'est une accélération. Et l'angle qu'on semble oublier dans tout ce message-là, c'est que le télétravail, pour certaines tâches, c'est le premier pas vers la disparition de certaines tâches ou fonctions. Donc, si tu regardes les tendances, puis t'es commis de bureau, puis tu te dis « Hey, c'est le fun, mon employeur a tout numérisé mon travail », il y a plein de choses qui sont automatisées, puis moi, j'ai juste maintenant, de chez nous, j'ai une belle job, là, je fais un match entre des transactions, puis, mais cette transaction-là, à un moment donné, cette tâche-là, est portée à disparaître. Donc, si tu te dis, hey, moi, je suis en train de me prendre un mode de vie, dans un chalet, ou plus loin, en me disant, je suis télétravailleur, parfait, mais est-ce que ton emploi de télétravailleur va être encore en application dans 5, 6, 7 ans? Parce que présentement, les entreprises disent « OK, on met une pause pendant 2 ans. » C'est-à-dire qu'on envoie notre monde chez eux, on ajuste nos systèmes, puis on fait du télétravail. Mais pendant ce temps-là, la haute direction fait un plan quinquennal, on fait une vue stratégique, puis on se dit « OK, dans 3, 4, 5 ans, c'est quoi le plan? Qui va disparaître? Qui va rester? Quelles sont les nouvelles structures à implanter au niveau informatique? Et quelles sont les anciennes tâches qu'on va faire disparaître tranquillement? » Tu peux pas dire à tes employés, « Hey, on investit en numérique, là, puis toi, là, dans 3 ans, je pense qu'on va éliminer ton poste. » Non, tu ne feras pas ça, donc tu n'as pas le choix, tu peux pas faire ça humainement. Mais quand même, il y a une évolution. Donc, présentement, ce qui est surprenant, tu as une surenchère des chalets, surenchère sur l'immobilier. On voit que les ventes au détail ont été sauvées par les achats d'automobiles, donc sur plusieurs années. On dirait qu'il y a une dichotomie entre la menace future puis la réalité que ce que les travailleurs perçoivent. Comme si le changement actuel était permanent et à long terme, alors qu'il y a une portion qui va être éliminée comme télétravail, il y a une portion qui va être, oui, être envoyée en télétravail, mais il y a aussi des gens qui vont retourner au bureau. Alors, la capacité de paiement va-t-elle être la même? Écoute juste les voitures, quand tu regardes les chiffres d'achat de véhicules neufs, il y a une petite baisse en avril à cause des fermetures de la pandémie, mais mai, juin, juillet, c'est impressionnant.
Non, ça c'est sûr, mais moi ce que j'ai hâte de voir, parce que j'ai des échos, là, je ne suis pas un expert là-dedans, mais moi, ma théorie, enfin, je me disais, avec la crise, notamment au centre-ville, le prix au pied carré pour des espaces de bureaux commerciaux va baisser. Il paraît que non.
Ouais, il paraît que non pour l'instant,
ouais.
Mais tout est une question d'offre-demande. À un moment donné, si t'es un promoteur immobilier, oui, tu as payé cher, oui, il faut que tu rentabilises, mais là, tes bureaux sont vides. Puis là, on dira pas que WeWork va venir te sauver. On s'entend, c'est peut-être pas le temps. Alors, si t'es un promoteur immobilier ou t'es un groupe de possession immobilière, puis t'as plein de tours au centre-ville, puis t'as des étages qui commencent à se vider, puis t'as pas de nouveaux locataires, à un moment donné, il y a une concurrence des prix qui s'installe. Donc, si les entreprises réduisent de 15, 20, 25 % l'espace bureau, puis qu'il y a des nouvelles tours qui se construisent, ben offre-demande, à moins que t'acceptes vraiment de baisser. Il y a des groupes immobiliers qui disent, dans le fond, j'aime mieux garder le prix élevé, puis avoir un petit taux d'inoccupation un peu plus élevé pour montrer que, dans le fond, mon prix moyen au pied carré est élevé. Bon, là, c'est une stratégie, mais il faut que tu te fasses financer aussi. Donc, moi, je crois pas à la théorie que les prix ne changeront pas s'il y a une baisse de la demande.
Très bien. Un mot sur ce principe proposé par Oxfam, que les riches devraient être taxés davantage parce qu'ils polluent plus.
Oui, les riches consommeraient la moitié de ce que les plus pauvres consomment. C'est-à-dire, il y a une logique là-dedans, plus de moyens, donc consomme plus, mais ça amène la réflexion sur l'externalité. Ce que je te parlais, c'est-à-dire qu'un agent économique ou une personne, une entreprise, qui crée par son activité une pollution ou un dommage à autrui sans payer le juste prix, fait une externalité économique. Et quand on pollue, on fait ça. Je te donne un exemple. Un jet privé. La personne qui prend son jet privé pour aller en vacances ou une réunion d'affaires, puis qu'il y a 8-9 personnes dans le jet, c'est bien de valeur, mais pas lui davantage qu'une classe économique dans un avion d'Air Canada. Et donc, en français, on ne paie pas le juste prix de ce qu'on utilise. Même chose au niveau de la pollution. Si t'es un plus riche et que tu consommes plus, ta piscine est plus grosse, ta maison est plus grosse, les matériaux que tu jettes quand tu rénoves sont plus élevés, tout ça crée des déchets, mais on paie pas le juste prix de ça dans l'achat. La consommation mondiale n'est pas encore rendue à payer le prix de la disposition des choses à 100%. Si jamais il fallait qu'on paie le juste prix, le dollar à moi chargerait plus cher parce que sa spatule qui dure 3 semaines, ben, il serait aux poubelles. Non, mais c'est vrai! On achèterait plus durable. Ma grand-mère disait, je suis trop pauvre pour acheter cheap. Tu sais, dans le fond, t'avais pas le choix, fallait que ça dure. Donc, l'éco-fiscalité, ce que ça dit, c'est que ton stationnement dans une zone où il y a une possibilité d'avoir des transports en commun devrait être plus cher. Ton bien de luxe, tu sais, ton gros VUS avec un moteur fou de 95 000 devrait être taxé parce que la nécessité n'est pas là par rapport à la pollution. Donc, ça, c'est la logique économique pure maintenant. Il y aura beaucoup de barrières, beaucoup de gens qui vont s'opposer, mais quand tu consommes plus, tu devrais payer plus implicitement.
Merci, monsieur. Bonne journée.
Salut.
Salut. 7h21. On va aller voir ce qui se passe sur la 20, Linda.